France Culture.
En route pour la suite des Midi de Culture, tout à l'heure à partir de 13h, je recevrai Ovidie pour sa pièce « La chair est triste, hélas ». Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le grand cinéaste Maurice Pialat est à l'honneur en cette rentrée. La Cinémathèque de Paris lui consacre une rétrospective jusqu'au 1er octobre à l'occasion des 100 ans de sa naissance. À l'heure où le milieu du cinéma s'interroge sur ses pratiques, sur le bien-être au travail, Pialat détonne. On se souvient de ses colères, de ses provocations, de son intransigeance et de sa façon singulière de filmer les femmes. Alors, comment regarder les films de Pialat en 2025? C'est le dossier du Point Culture du jour. Jérôme Momcilovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma et entre autres l'auteur de Maurice Pialat, La main, les yeux, qui est sorti chez Capricci en 2021. Alors la Cinémathèque consacre une rétrospective à Maurice Pialat, elle est jusqu'au 1er octobre. Avant de parler cinéma avec vous, c'est quand même peu dire que le réalisateur souffre d'une réputation sulfureuse. Diriez-vous que l'on peut regarder ses films en 2025 comme à leur sortie?
Alors, cette réputation, et puis on va dire ce cirque un peu de colère, de ressentiment, je suis pas sûr qu'elle l'ait tant desservie. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, ça peut être un peu compliqué d'aborder ça sereinement, on va dire. Pour vous répondre simplement, Pialat, aujourd'hui, pour moi, ça reste le plus grand cinéaste français. Je pense que ça a été un plus grand cinéaste encore que Renoir. Et pour vous répondre un peu plus précisément, j'ai revu Loulou, qui est un de ses films les plus connus, avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Je l'ai revu ces derniers jours. Et quelque chose m'a frappé, c'est que Pialat, à la fois, ça a été un des cinéastes les plus... Enfin, qui a fait les films les plus désordonnés, les moins finis, les plus bruts. Et à la fois, je me suis dit dans ce film que c'était vraiment un film parfait. C'est-à-dire que dans toute cette colère, tout ce désordre, il a atteint quelque chose qu'il est le seul à avoir atteint.
Comment vous le définiriez, justement, ce qu'il a atteint?
Ce qu'il a atteint, c'est que je pense que c'est un des seuls, et probablement le seul, qui a vraiment réussi à faire remonter la vie dans les films. Et vraiment, son obsession, c'était finalement de faire du cinéma contre le cinéma, c'est-à-dire contre ce qu'il appelait le cinoche, donc contre l'imitation de la vie. Il ne reste presque plus que ça aujourd'hui, dans le cinéma français en tout cas. Et je vais vous donner un exemple, c'est un film qui est peut-être encore plus connu, c'est « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Il y a une scène, justement, qu'ont vu tous les gens, même qui n'ont pas vu ces films, je pense. C'est la scène où Jean-Yann agonie d'un injure sa compagne, je veux pas Marlène Jobert dans le film. Cette scène-là, si on la regarde trop vite, si on n'écoute que les dialogues, on a l'impression que c'est une scène monstrueuse de misogynie. C'est le personnage qui est misogyne. Si on regarde la mise en scène, ce qui est troublant et bouleversant, c'est que c'est une scène pour elle, c'est une scène qui la regarde elle, et qui regarde ce que la monstruosité de l'homme lui fait. Et en revoyant les films, j'ai aussi réalisé que Pialat a été dur, mais pas seulement avec les femmes, avec tout le monde dans la vie. Dur, mais très aimant, particulièrement. Mais aucun de ses films ne porte la moindre trace ni de cruauté, ni de misogynie. Et c'est vraiment très frappant dans ce film-là.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette méthode? Alors, on se souvient de ces colères complètement homériques. Vous disiez à l'instant que ça ne l'avait pas forcément desservi. Mais qu'est-ce que cette méthode Pialat a produit très concrètement sur ses films, selon vous?
Alors ça, c'est une question passionnante. Bon, d'abord, c'était pas une méthode pour lui. Encore une fois, c'était quelque chose de très très éruptif et très voilà, c'était dans le moment. Je pense qu'il faut pas sous-estimer la sincérité de ses colères, parce que même s'il se prêtait un peu au jeu médiatique en rentrant dans toutes les compromissions et les hypocrisies, il était très sincère. Et il avait vraiment une volonté de casser justement le cirque. Et sa méthode, en gros, on sait que sur les plateaux, il pouvait être très dur avec les acteurs. Je pense que c'était pas de la cruauté. Je pense que c'était vraiment le signe de son exigence et de sa volonté de capter quelque chose de la vie. En fait, il s'agissait toujours, pour moi le mot c'est de faire remonter justement quelque chose, c'est-à-dire au croisement de cette violence-là sur le plateau, au croisement de la dimension autobiographique de ces films qu'on retrouve presque pas dans le résultat finalement, il s'agit vraiment de faire s'entrechoquer tout ça et de produire quelque chose de vrai justement.
Vous parliez de vrai, de réel, de réalité, de vie. Alors, tout ça, évidemment, dans le cinéma de Pialat, mais concernant l'image, concernant le résultat, finalement, quand on parle de cinéma, qu'est-ce qui est spécifique à cette image-là? Pourquoi on reconnaît un film de Pialat?
Je pense qu'il est vraiment précieux de les voir aujourd'hui plus que jamais. Ce sont des films qui, pour le dire un peu vulgairement, prennent vraiment aux tripes. Et ce qui prend aux tripes, c'est vraiment que Pialat, encore une fois, a réussi à montrer la vie. Et la vie, c'est quelque chose de cruel. C'est aussi cruel que l'était sa méthode sur les plateaux. C'est pour ça qu'il était comme ça. C'est quelque chose de méchant. Je pense sincèrement que le cinéma est un art méchant, pas un art gentil. Il faut pas lui demander d'être gentil. On lui demande trop d'être gentil aujourd'hui. Et cette méchanceté, c'est la condition pour, je pourrais dire pour la gentillesse, mais disons pour l'humanité. Et c'est ça qui est sublime quand on voit les films de Pialat aujourd'hui. c'est que ce sont des films à la fois très bruts, très durs, qui n'épargnent rien aux spectateurs, mais qui à la fois, grâce à ça, lui offrent un regard sur l'homme, au sens général, mais donc sur la femme aussi, qui est le plus juste, je pense, qu'on a jamais produit. Et il y a un vrai problème sur sa descendance, entre guillemets, aujourd'hui, parce que les trois quarts des cinéastes français se réclament de lui depuis 30 ou 40 ans, mais c'est que précisément tous ceux qui l'ont imité essaient d'imiter la vie. Et c'est le contraire de ce que voulait Piala. Donc ça a moins été une révolution qu'une sorte d'exception. Exception magnifique. À la limite, je pense qu'à John Cassavetes comme équivalent, mais dans le cinéma américain, c'est que Piala, finalement, ça a été peut-être le seul cas de cinéaste qui a été à la fois au centre, parce qu'à l'époque de À nos amours et de Police, il est quand même le roi du cinéma français, et il voulait pas l'être, et il voulait l'être en même temps, bref. Et à la fois, il était vraiment à la marge. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu aujourd'hui, c'est-à-dire que les cinéastes qui ont soit la réputation, soit eux-mêmes la volonté d'être des marginaux, de casser un peu le système, sont des gens, il me semble, qui sont les plus dociles qui soient. C'est pas complètement de leur faute, c'est ce que le système attend d'eux. Et je pense que là, quelque chose s'est vraiment fermé après lui. Lui haïrait le cinéma d'aujourd'hui encore plus qu'il a haï celui de son époque. Et pour être honnête, je pense qu'il aurait raison.
On parle de marge, mais il a quand même reçu une Palme d'Or.
Il a reçu une Palme d'Or pour un film qui, pour moi, même si ça reste un chef-d'œuvre, n'est pas son meilleur film. Et c'est très beau qu'il ait eu cette Palme d'Or. Mais là, je reviens à ce que vous me demandiez au début, son geste, son fameux point levé, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je pense que il a un peu caché, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que là, on voit que le cirque, encore une fois. Mais ce que disait Piala, au fond, c'est mon film est nul, parce que lui pensait que tous ses films étaient nuls, parce qu'il était extrêmement exigeant, mais quand même, il est moins mauvais que tout le reste. Et là encore, il avait raison.
Quand je vous entends en parler, Jérôme Momcilovic, j'ai l'impression que vous admirez autant l'homme que son œuvre, je me trompe?
Oui, je pense que c'est indissociable. Vraiment, la personnalité de Piala est indissociable de la nature de ses films. On pourrait la décrire comme ça, finalement. C'est que Piala, c'est quelqu'un qui avait l'air d'être méchant et qui, grâce à cette méchanceté de façade, a pu faire les films les plus gentils, les plus aimants du monde, les plus empathiques du monde. Et c'est quelqu'un qui était en colère contre le règne des gentils, qui a vraiment un peu tout recouvert aujourd'hui, il me semble. Et cette gentillesse, elle cache justement, dans l'hypocrisie, beaucoup de méchanceté et de mépris de l'humain.
Bien, merci beaucoup Jérôme Momcilovic. Je précise que vous donnerez vous une conférence, Maurice Piala, le sixième sens à la Cinémathèque. Ce sera jeudi 11 septembre à 19h dans le cadre de la grande rétrospective. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, nouveau revers pour le projet de musée mémorial du terrorisme.
Oui, annoncé par Emmanuel Macron en 2018 pour rendre hommage aux victimes du terrorisme, le projet devait voir le jour en 2027. Pour des questions budgétaires, Michel Barnier y avait renoncé avant que le président de la République ne réaffirme sa volonté que ce musée voit bien le jour. Mais une nouvelle annonce vient fragiliser à nouveau ce projet. Le site prévu pour l'accueillir, situé à Suresnes, a finalement été écarté car les travaux de réhabilitation coûtent trop cher. L'Élysée a donc proposé 4 autres lieux relevant du ministère des Armées en région parisienne et annoncera d'ici fin septembre celui qui sera retenu pour accueillir le musée mémorial du terrorisme.
Royaume-Uni à présent, une œuvre de Banksy va être retirée par les autorités britanniques.
Oui, aussitôt apparu, aussitôt disparu. Le plus célèbre des street artistes avait dévoilé lundi un nouveau pochoir sur l'un des murs de la cour royale de Londres. On y voit un juge utilisant son marteau pour frapper un manifestant au sol. Un tag qui dénonce l'arrestation de près de 900 personnes en début de semaine qui avaient manifesté en soutien de l'organisation Palestine Action, considérée comme terroriste outre-Manche. Rapidement cachée par les palissades et surveillée par des agents de sécurité, l'œuvre doit être retirée dans les prochains jours.
Et puis côté livre, les bébés vont enfin avoir leur prix littéraire.
Oui, encore un prix littéraire. Créé par le ministère de la Culture, ce prix annuel sera remis au mois de novembre et récompensera un livre destiné aux moins de 3 ans. L'objectif est double pour le ministère, mettre en lumière la littérature jeunesse et sensibiliser les parents à la lecture faite aux enfants. Rachida Dati déclare, je la cite, « Dès la toute petite enfance, manipuler des livres apporte des bénéfices pour la plasticité cérébrale, l'empathie, la concentration et l'exposition au langage, qui est un facteur important d'égalité des chances. »
Et pour finir, Marie, est sorti hier le nouveau roman de l'écrivain américain Dan Brown, Le secret des secrets.
Et c'est toujours un événement, hein, tant les ventes de ses livres atteignent des chiffres vertigineux. Dan Brown avait en effet écoulé depuis le début de sa carrière près de 250 millions de livres à travers le monde. Le secret des secrets, 9e roman de l'auteur, continue de suivre son héros, rendu célèbre par son livre Le Da Vinci Code, le professeur de symbologie Robert Langdon. L'intrigue se déroule cette fois-ci à Prague, avec au programme une découverte, un meurtre, meurtre et un complot mené par une organisation maléfique. Tiré en France à 500 000 exemplaires par les éditions J.C. Lattès, Le secret des secrets s'annonce déjà comme le best-seller de la rentrée littéraire.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.